VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par le conflit en Syrie. L'armée syrienne a annoncé aujourd'hui un accord prévoyant un arrêt total des opérations militaires qui doit entrer en vigueur à minuit sur tout le territoire syrien. Une initiative confirmée par la principale formation de l'opposition en exil. Dans le même temps, la Russie annonce également la réduction de sa présence militaire en Syrie. Des détails avec John Lindon.
L'accord est parrainé par la Russie et la Turquie, deux pays très impliqués dans le conflit en Syrie, où ils soutiennent des parties adverses. Ankara appuie les rebelles, tandis que Moscou, tout comme Téhéran, est un proche allié de Damas. Cet accord, qui a été négocié sans la participation des États-Unis, exclut toutefois les djihadistes du groupe État islamique, ainsi que ceux du front al-Nosra. La coalition nationale syrienne, principale formation de l'opposition en exil, a apporté son soutien au cessez-le-feu, selon son porte-parole Ahmad Ramadan. La trêve, de même que la signature d'un document sur des négociations de paix, ont également été confirmées à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier a par ailleurs annoncé une réduction de la présence militaire russe en Syrie. Toutefois, des avions russes ont bombardé dans la nuit de mercredi à jeudi des cibles du groupe État islamique dans le secteur sud d'Al-Bab, bastion djihadiste que des rebelles syriens appuyés par Ankara tentent de prendre.
Afrique maintenant, visite du Premier ministre français Bernard Cazeneuve ce jeudi à N'Djamena au Tchad. M. Cazeneuve a assuré le gouvernement tchadien du soutien de Paris face à la crise économique et sociale que traverse le Tchad en soulignant l'importance du Tchad dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Pour que cette lutte se mène de façon efficace à l'extérieur, il faut que nous ayons des partenariats avec des pays amis qui s'inscrivent dans la durée et qui permettent de réussir cette guerre qui sera un combat de longue haleine, a affirmé le chef du gouvernement français, qui était accompagné du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à l'issue d'un entretien avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Allié stratégique de l'Occident à la jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, le Tchad se débat actuellement dans une crise profonde qui secoue le régime autoritaire d'Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990 et réélu en avril pour un cinquième mandat après un scrutin contesté par l'opposition. Au Nigeria voisin, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a diffusé ce jeudi une nouvelle vidéo dans laquelle il conteste les affirmations du gouvernement nigérian, selon lesquelles le groupe djihadiste a été chassé de la forêt de Sambisa, un de ses derniers bastions dans le nord-est du pays. « Nous sommes en sécurité, nous n'avons été chassés de nulle part, et les tactiques et les stratégies ne peuvent pas révéler notre position, sauf si Allah le veut », a déclaré Shekau, entouré de combattants cagoulés et armés dans une vidéo de 25 minutes. Mais les autorités nigérianes sont plus que jamais déterminées à en finir avec les islamistes de Boko Haram. Et la nouvelle de la reconquête de la forêt de Sambisa par l'armée nationale est célébrée comme une étape majeure dans le rétablissement de la sécurité dans le nord-est du pays. Pour une analyse, Timothée Donongmaya joue au Nigeria le professeur Akambi Lopeju de l'université de Lagos.
La situation actuelle est qu'ils ont réussi à les chasser de leur bastion principal et l'armée nationale compte maintenant transformer cette bastion en terrain d'entraînement pour l'armée nationale. Et bien, cela n'empêche pas qu'on ait des attentats ici par là parce que les insurgés, en fuyant, veulent toujours faire savoir qu'ils existent. Alors on ne peut pas empêcher d'entendre des bombes ici, par là.
C'est clair qu'ils sont nombreux à se disperser au sein de la population civile. Comment parvenir à les contrecarrer?
Vous voyez, la situation ethnique du pays fait que, selon la tradition, il y a certaines localités que tout de suite, quand ils ont des étrangers parmi eux, signalent. Ils signalent ça non seulement aux autorités, mais entre eux, ils se connaissent. Mais il y a aussi culturellement des endroits au Nigeria où les gens se taisent beaucoup par peur d'être attaqués ou par être victimisés. C'est ça qui rend difficile la tâche à l'armée. Mais maintenant, les gens ont compris, ils font des rapports sous couvert, unanimes, pour que les gens ne sachent pas qui a fait le rapport. Alors, ça donne un peu de gain à la section sécuritaire. C'est pour cela qu'à Lagos, tout récemment, ils ont réussi à appréhender certains djihadistes qui se cachaient parmi la population.
Quelles sont les autres initiatives que le gouvernement doit mener, selon vous, pour définitivement régler ce problème Boko Haram?
Vous savez, c'est une première dans le pays. Alors maintenant, ils sont en train d'apprendre chaque jour qu'il ne fallait pas se retirer tout de suite parce que lorsqu'ils gagnent du terrain, et les insurgés attaquent ailleurs et ils se déplacent et les autres reviennent. Et maintenant, ils ont fait de sorte que par chaque région, il y a des camps militaires qui sont tels, vraiment actifs et non pas dormants comme on le faisait parce qu'il n'y a pas de guerre, les gens sont là, il n'y a pas d'ammunition, il n'y a pas de personnel. Maintenant, on laisse ici et là quelques régiments de l'armée et des forces de sécurité unifiées, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre, les policiers, les gendarmes, tout ça. Alors, et surtout, parmi les locaux, on fait aussi des recrutements et les gens restent sur place.
Le professeur Akambi Lupeju de l'Université de Lagos au Nigeria.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, le député de Kinshasa, Frank Diongo, président du parti d'opposition MLP, mouvement Lumumbiste progressiste, a été condamné à 5 ans de prison par la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême de justice. Arrêté le 19 décembre et accusé d'avoir séquestré et maltraité 3 membres de la garde présidentielle, il avait été jugé en flagrance 6 jours plus tard. Les arrêts de la Cour suprême de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours devant une autre juridiction. Le député Diongo est farouchement opposé au pourparlers en cours entre le régime du président sortant Joseph Kabila et l'opposition sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Par ailleurs, les pourparlers de ce dialogue national reprennent aujourd'hui à Kinshasa. Les évêques sont maintenant de retour aux négociations après leur séjour de Noël dans leurs diocèses respectives. On attend un accord d'ici à la fin de la semaine. Les détails avec Gino Réema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il s'agira d'une plénière pour adopter les documents de compromis selon une source proche des prélats catholiques. La même source renseigne que la petite équipe mise en place le week-end dernier a eu à travailler depuis lundi, même si le travail n'était pas costaud. D'après elle, les divergences qui restent sont minimes. Elle parle notamment de la nature et valeur juridique du document, de l'assignation de la primature à une composante. Et sur ce point, on parle de plus en plus du rassemblement et de la refonte de la CENI. Concernant la CENI, nous a-t-elle révélé qu'il n'y a pas vraiment de problème car certains délégués non signataires de l'accord Kodjo n'exigent pas une refonte totale de la CENI. Pour ce qui est de l'adoption de l'accord, déjà ce jeudi, une réunion des évêques est prévue avant la plénière pour adopter une nouvelle stratégie afin de pousser non seulement à l'adoption de l'accord, mais aussi à mener des plaidoyers et lobbying au plus haut niveau, c'est-à-dire auprès de ceux qui donnent des instructions à leurs délégués aux négociations directes afin de s'engager pour l'adoption et la signature de l'accord qui pourra intervenir officiellement et solennellement le vendredi.
Gino Réema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. RDC toujours, fin du procès des 49 personnes arrêtées lors des manifestations du 19 au 22 décembre à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. 15 peines de prison ont été prononcées et il y a eu 34 acquittements. De Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila.
C'est ce mercredi, dans la soirée, que le tribunal a rendu son verdict. 15 personnes sont condamnées à 3 ans de servitude pénale. C'est la grande désolation pour les membres de famille. D'autres personnes sur les 49 ont été acquittées. C'est la grande satisfaction, comme s'exprime un acquitté.
Je suis très content, très heureux que la justice vient d'être faite.
La plupart ont été défendus par un collectif d'avocats bénévoles. Maître Kessakula est à moitié satisfait et compte aller en appel pour les 15 autres condamnés.
Je suis un peu et à moitié soulagé parce que pour moi, il fallait libérer tous les 49. Et maintenant, nous irons en appel contre les autres qui sont restés là-bas. Et surtout qu'il y a eu un fou qui étaient parmi eux, qu'on les a tous poursuivis en Corée et que cette infraction ne pouvait pas tenir si on libère quelqu'un et on garde les autres.
Il y aurait des centaines de personnes qui croupissent dans les locaux de la police et de l'Agence nationale de renseignement. Même les avocats font l'objet d'enlèvements. Aujourd'hui à Lubumbashi, c'est un climat de terreur qui règne. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Et pour terminer, crash de l'avion militaire russe Tu-154 en mer Noire dimanche dernier qui a fait 92 morts. L'accident est dû à un fonctionnement technique anormal de l'appareil, a indiqué ce jeudi le ministre russe des Transports, Maxim Sokolov. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.